Trainville PM. Les chefs.
Monsieur le Président, nous aurons l'honneur de recevoir dans cette enceinte sous peu la Première ministre de l'Ontario.
Monsieur le Président, je suis très heureux de voir mon collègue s'inspirer des bonnes pratiques dans le reste du Canada.
Les chefs.
Monsieur Trudeau parle beaucoup en matière internationale, mais il faut regarder son réel bilan.
Les chefs. Avec Antoine Robitaille et Alec Castonguay.
Alors, on est avec Alec Castonguay, le chef du bureau politique au magazine L'Actualité, Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal. Bonjour à vous deux.
Allô.
Alors, Justin Trudeau vient tout juste de commencer son allocution devant l'Assemblée générale des Nations unies. Alec, tu as eu les mêmes informations que moi. Là, moi, j'ai parlé avec quelqu'un hier qui était à New York et qui m'a donné une bonne idée de ce dont il allait traiter et visiblement, tu as les mêmes informations que moi.
Oui, quand tu lis sur la feuille, hein, c'est ça, sur ma feuille, oui, c'est ça. Oui, donc deuxième discours en deux ans pour Justin Trudeau à l'ONU. C'est le douzième discours d'un premier ministre canadien devant cette enceinte. Moi, je pensais qu'on était plus systématiquement au Canada devant les collègues de l'ONU, mais non, 12e fois seulement de l'histoire, c'est pas énorme. Donc, Justin Trudeau qui est là pour parler d'un discours... Un discours qui va être assez différent de celui de l'an dernier. Si vous vous souvenez, c'était le Canada est de retour. On est un Canada est accueillant, il est positif.
Canada de la classe moyenne.
C'est ça. Là, on n'est pas dans le même type de discours. On va parler beaucoup des Autochtones, entre autres. On veut montrer que le Canada n'a pas peur des défis, notamment celui de relever les conditions de vie des Autochtones. On va parler des pensionnats autochtones, des injustices qui ont été vécues par les Autochtones pendant le 20e siècle. On va expliquer qu'on a divisé le ministère des Affaires autochtones en deux pour offrir de meilleurs services, une recommandation de longue date là, des commissions d'enquête. Bref, on veut montrer avec ce discours-là de Justin Trudeau que le Canada n'est pas un pays parfait, mais qu'il n'a pas peur des défis. Et ça fait partie du narratif, si je peux dire, du récit qu'on est en train de construire du côté canadien.
Oui, c'est mieux récit.
Merci. du récit qu'on est en train de construire du côté canadien pour obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU en 2021, parce que c'est des très longues campagnes de séduction. Hein? Oui. Et donc, Justin Trudeau en profite pour rencontrer d'autres chefs d'État, des ambassadeurs. Et ce qu'il veut montrer comme message, le Canada n'est pas parfait, mais étant donné qu'il a au moins le courage de s'attaquer à ses propres problèmes, il devrait être un joueur international de calibre suffisant pour être nommé par ses pairs au Conseil de sécurité de l'ONU. Il va être aussi question, évidemment, des changements climatiques. Ça, c'est assez évident. Donc, il est en train de parler actuellement.
On a un petit extrait, justement, qu'on va vous faire écouter tout de suite.
Le Canada est un projet en perpétuelle évolution. So I want to tell you about the Canadian experience because for all the mistakes we've made, we remain hopeful. Hopeful that we can do better and be better and treat each other with the dignity and the respect that is the birthright of every human being.
Alors, on peut faire mieux. Hein?
Voilà, on peut faire mieux, mais on a de l'espoir. On est un pays d'espoir, donc
ouais,
on va tenter de s'améliorer.
Message positif. Message positif.
C'est du Justin Trudeau. Hein?
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et apparemment, ça marche parce que hier, il était dans plusieurs événements et partout, il est accueilli avec énormément d'enthousiasme. C'est le moins que l'on puisse dire.
Il est encore sur la scène internationale très populaire.
Oui, oui, c'est Monsieur Jet Set là, et il a la popularité d'une vedette rock là.
Ou d'un Kennedy.
Oh oui, c'est le Kennedy du Canada.
Non, mais il y a un côté famille dynastique.
Ben oui, bien sûr, absolument. C'est Antoine.
C'est normal dans une monarchie, remarque.
C'est Antoine que vous venez d'entendre. Alors, je veux juste vous dire, plus tard là, dans l'émission, on a quelqu'un là, qui est en train d'écouter ce discours-là et on va vous faire le résumé de tout ce qu'il a dit, Justin Trudeau, au nom des Canadiens que vous êtes. Parlant de visite, mon cher Antoine, il y a la première ministre de l'Ontario qui visite l'Assemblée nationale et qui va s'adresser à l'Assemblée nationale à 15 heures.
Exactement. Donc, c'est une première.
C'est la première fois qu'un premier ou une première de l'Ontario s'adresse à l'Assemblée, oui?
C'est ce qu'on m'a dit, oui.
Ah oui, ah, ça me surprend.
Première historique. Il y a eu plusieurs chefs d'État étrangers ou chefs de gouvernement, remarque, là, qu'ils soient français ou, m'a-t-on dit, grecs, qui sont adressés à l'Assemblée nationale, mais jamais un premier ministre d'une autre province.
Alors, qu'est-ce que ça va changer à la journée ou qu'est-ce que ça a déjà changé à la journée?
C'est la période de questions qui a été teintée déjà par cette visite-là. Je pense que les premières questions de Jean-François Lisée est assez intéressante. Il faisait un contraste entre certaines pratiques au Québec et certaines pratiques en Ontario. Il a parlé des bonnes pratiques en Ontario, on l'a entendu dans l'introduction des chefs. Et ces bonnes pratiques-là, détaillons-les. D'ailleurs, d'abord, il y a les infirmières. Mm-hmm. Décision du gouvernement ontarien de donner de l'autonomie aux infirmières. On dit donc, Jean-François Lisée dit que le gouvernement du Québec, à la tête duquel il y a des médecins, oui. Il a beaucoup de réticence à faire cela. Il faudrait prendre exemple sur, mm-hmm. Sur l'Ontario. Mm-hmm. Même chose pour les pharmaciens.
Oui.
Qui peuvent donner des vaccins, peuvent administrer des vaccins. Donc, Jean-François Lisée a dit une étude démontre que là où les vaccins sont administrés par les pharmaciens, il y a davantage de citoyens qui ont le vaccin contre la grippe, notamment.
Bon.
Ensuite, le matériel scolaire. La question de Lisée, c'était le gouvernement ontarien offre gratuitement à chaque rentrée scolaire le matériel scolaire à chaque enfant. Alors, au lieu de donner 900 millions de plus en rémunération aux médecins d'ici 4 ans, est-ce que le gouvernement du Québec pourrait faire de même? Puis ensuite, il y avait le 25 % d'achat local pour le transport en commun, les grands projets de transport en commun. Alors, écoute, on va écouter un extrait de Jean-François Lisée et des réponses de Philippe Couillard sur les infirmières.
Au Québec, le diagnostic appartient aux médecins. C'est une barrière qu'il faudrait faire tomber. En Ontario, il y en a 25 de ces cliniques d'infirmières autonomes. Pourquoi le premier ministre du Québec n'accepte-t-il pas qu'en Ontario, ils ont une bonne solution et pourquoi refuse-t-il de l'appliquer au Québec?
Monsieur le premier ministre.
Monsieur le président, je suis très heureux de voir mon collègue s'inspirer des bonnes pratiques dans le reste du Canada, ce qui témoigne de son attachement à ce grand pays qui est pour nous une source à la fois de collaboration et d'exemple. Mais sur la question spécifique, que je peux taquiner un peu quand même, on est entre amis ici, là.
Oui, oh oui, c'est sûr.
C'était bien envoyé quand même.
Oui, oui, c'est bien envoyé.
Bien
oui,
sûr, bien sûr.
Effectivement.
Alors, très bien, ben, on a compris que...
Ben, écoute,
sur le fond, par contre, il n'a pas donné de réponse, comme c'est presque toujours le cas, n'est-ce pas?
Non, c'est ça. Peu de réponses sur les infirmières.
Est-ce que Mme Wynne était dans les tribunes à écouter cette période des questions? Parce qu'elle se débrouille en français, là, elle est capable de très bien de comprendre l'échange. Est-ce qu'elle était là?
Bonne question, Bernard. J'ai pas vérifié.
Parce que je pense avoir entendu de longs applaudissements tout à l'heure,
ouais.
Au début de la période, et je me disais, il devait être en train de présenter Mme Wynne dans les tribunes. Mais regardé, je sais pas. Là, je prends un petit risque, je m'étire le cou un petit peu.
Je m'étirerai pas le cou.
Laisse-moi me sacrifier pour le bien de l'équipe. Parlons.
C'était une période de questions. Moi, j'ai trouvé extrêmement riche. Tu sais, souvent, les gens disent des périodes de questions. Ça vaut rien.
Ouais, ouais.
Juste cet échange-là sur
les
contrastes
modèles, entre
Ontario et Québec. Mmh. Puis ensuite, il y a eu la question de la Catalogne. Là, quand on parle de relations internationales, moi, je trouve ça toujours intéressant à l'Assemblée nationale. Puis souvent, nos députés sont très provinciaux d'esprit, donc ils ne veulent pas en parler.
Alors,
là,
vas-y donc, qu'est-ce qui s'est dit sur la Catalogne? Parce qu'il faut parler aussi du libre-échange avec l'Europe qui vient de commencer aussi
écoutons,
aujourd'hui.
Écoutons simplement un échange entre Jean-François Lisée et Philippe Couillard.
Les démocrates doivent se lever aujourd'hui pour dire à l'Espagne, respectez le processus démocratique en Catalogne.
Je n'ai pas un reproche que je fais à mon collègue, qu'on pèse nos mots lorsqu'on parle de questions internationales et de relations avec d'autres gouvernements. La seule façon de garantir l'intégrité territoriale du Québec, c'est l'appartenance à la Fédération canadienne.
Hein?
Oui. Je sais pas si tu te souviens, dans la campagne électorale de 2007, je pense que tu étais là, tu étais en politique, je veux dire.
Je commençais, là, oui.
Tu commençais, hein, c'est ta première. Mais ça a été une campagne qui a été marquée par un débat. Moi, je suivais la caravane de Jean Charest, et Jean Charest avait fait une double négation sur le Québec. C'est quelque chose comme le Québec n'est pas indivisible ou quelque chose comme ça. Puis il avait été obligé de se reprendre par trois fois parce qu'il était un peu en porte-à-faux par rapport à la position traditionnelle du gouvernement, c'est-à-dire du Parti libéral, sur l'indivisibilité du territoire québécois en toutes circonstances. C'est comme une position de principe que chacun tient. Mais là, Philippe Couillard, aujourd'hui, a fait éclater complètement cette tradition-là ou ce consensus-là. Il a dit que se produirait-il, donc, compte tenu qu'on a une relation de nation en nation avec les Premières Nations dans le cadre de la séparation du Québec de la Fédération canadienne, si l'ensemble des Premières Nations, au moins la moitié du Québec, décidaient d'exercer leur autodétermination et de ne pas suivre le Québec séparé.
Il vient de dire que la moitié du Québec devrait appartenir aux Premières Nations?
Oui, puis on a déjà une relation de nation à nation avec eux. Donc, moi, je pense que c'est pas uniquement en cas de souveraineté du Québec. Donc, le premier ministre du Québec vient de dire que le territoire du Québec est divisible en raison du droit à l'autodétermination.
Alors, c'est ça, là. S'il veut être logique avec lui-même, donc une nation autochtone qui déciderait de partir avec son bout de territoire du Québec, Philippe Couillard dit qu'il respecterait ça, là?
C'est très curieux parce que lui-même dit qu'il faut être très prudent avant de commenter ce qui se passe. Et lui-même, n'a-t-il pas manqué de prudence? C'est la question que je pose. En tout cas, du côté du Parti québécois, on était assez catastrophés.
Moi, je pense que c'est pas une question de Parti québécois, là.
Comme
Québécois, je pense qu'il faut...
Il y avait aussi Gabriel Nadeau-Dubois. Je veux dire, les deux partis souverainistes étaient assez catastrophés. Mais c'est vrai que c'est pas une question de souverainisme fédéraliste. Mm-hmm. Je te l'ai dit. Ben, Jean Charest avait corrigé sa déclaration en 2007. Je me souviens.
J'étais Robert Bourassa aurait jamais fait une déclaration comme celle-là.
Mais non.
D'ailleurs, il y a eu un échange, n'est-ce pas, entre
Gabriel Nadeau-Dubois et Jean-Marc Fournier cette fois-là, où on a repris un peu les mêmes idées, mais ça fait rien. Si on a le temps, on peut l'écouter.
Allons-y.
Moi, je suis sûr que le premier ministre, puisqu'il reconnaît le droit à l'autodétermination du Québec, est capable de faire la même chose avec un peuple dont il a lui-même dit que nous étions des amis.
Il y a une différence fondamentale dans la reconnaissance du droit à l'autodétermination qui existe au Canada et qui n'existe pas en Espagne et qui amène des conséquences, surtout quand on met des nuances. Il nous répond non, puisqu'il y a une vaste manifestation d'appui à ce choix démocratique de faire un référendum. Ce que le premier ministre répond, très bien. Alors, si dans le nord du Québec, les Premières Nations avaient aussi cette manifestation large, qu'arriverait-il? L'Espagne dit « Nous sommes indivisibles ». Jacques Parizeau disait « Le Québec séparé serait indivisible ». Alors, quelle est la conséquence? Soyons prudents dans les nuances. Cela peut comporter des conséquences. Je nous invite à des nuances.
Est-ce qu'il a dit « Le droit à l'autodétermination n'existe pas » en Espagne? C'est ça qu'il a dit?
C'est ce qu'il a dit. C'est vrai que un des articles principaux de la Constitution, si je ne m'abuse, c'est le deuxième.
Parce que c'est un droit universel reconnu par les Nations unies, le droit à l'autodétermination des peuples.
Oui, c'est ça. On tombe dans un autre droit que le droit constitutionnel espagnol.
On tombe dans le droit international.
C'est ça.
Bon, on va s'arrêter parce que moi, je veux vraiment qu'on garde du temps pour parler de ce que ça va changer dans la vie des gens qui nous écoutent, cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe qui entre en vigueur aujourd'hui. Et Alec, tripping d'impatience de vous donner tous les détails dans un instant. Donc, de retour avec Antoine Robitaille et Alec Castonguay. Alec, parlons donc de cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe qui entre en vigueur aujourd'hui, qui va avoir, c'est clair, ça va avoir des conséquences économiques très importantes sur le long terme. Ce serait intéressant de voir quels seront les bénéfices qu'on tirera de ça. Mm-hmm. Mais résume-nous les principaux faits, là.
Oui, il y avait le ministre François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international, et Christine Saint-Pierre, la ministre québécoise, qui était au port de Montréal ce matin pour souligner l'événement.
Oui.
Les négociations...
Ah, c'était Dominion provincial?
Ils ont souligné ça ensemble, main dans la main, alors aujourd'hui, au port de Montréal, parce qu'on pense que le port de Montréal va être l'un des bénéficiaires, évidemment, des échanges commerciaux qui vont être plus importants avec l'Europe. Souvenez-vous, c'est le gouvernement de Jean Charest qui avait lancé cette idée-là en 2007.
Je m'en souviens très bien.
C'est exactement.
Et j'étais à Davos avec Jean Charest, moi, à ce moment-là. Puis en fait, c'est 2006 à Davos. Et il faisait campagne activement. Il avait rencontré notamment Sarkozy pour essayer de lui vendre l'idée à ce moment-là.
Finalement, il a réussi. Parce que le gouvernement Harper, en 2009, a enclenché les négociations qui ont été terminées par le gouvernement de Justin Trudeau à l'automne 2016. Et on avait fixé la date du 21 septembre 2017 pour l'entrée en vigueur. C'est donc aujourd'hui. 98 % des 9000 tarifs et droits de douane tombent aujourd'hui.
Je me corrige. 2007. C'est Davos 2007 où j'étais. C'est quelque part au mois de février,
c'est toujours au début de l'année, exactement.
Ah, ben voilà, je m'excuse.
Exactement. Et c'est ce que j'avais 2007 comme date, mais ça ne m'aurait pas
dérangé. Un des derniers reportages, grand reportage.
C'est ça. Ça donne accès à un marché de 510 millions de consommateurs pour les entreprises canadiennes. L'Union européenne est le deuxième partenaire économique du Canada derrière les États-Unis. On pense que ça va engendrer une hausse de 20 % des échanges commerciaux entre les deux blocs. C'est l'évaluation du gouvernement canadien. Il faudra voir, comme tu le dis, qui va vraiment en bénéficier. Oui. Il y a 38 parlements nationaux et régionaux qui ont 7 ans pour ratifier l'accord parce qu'il n'est pas ratifié. Hein. C'est une entrée en vigueur provisoire, même si 98 % des tarifs tombent. Il faut quand même que les pays ratifient cet accord-là. 6 l'ont fait jusqu'à présent, le Danemark, la Croatie, l'Espagne, le Portugal, la Lettonie et Malte. Donc, il en reste quand même 32 à venir. Mm-hmm. Et on sait que ça va peut-être accroché dans certaines régions, la Wallonie entre autres, en Belgique, qui avait failli tout bloquer à l'automne 2016. Il faudra voir eux qu'est-ce qu'ils vont faire lorsque ça sera rendu à eux de l'approuver. Évidemment, pour les entreprises d'ici qui n'ont plus de tarifs douaniers qui les désavantageaient en Europe, ça va les aider. On pense à l'exportation de sirop d'érable, entre autres, de porc. L'industrie aéronautique devrait en profiter beaucoup. Le bois d'œuvre canadien, on cherche des débouchés hein, parce que les États-Unis, on est en conflit. Ça pourrait être une façon aussi de faire croître cette industrie-là. Ici, on va importer du vin qui sera maintenant exempt de droits de douane et de tarifs. Donc, est-ce qu'on va avoir une baisse du prix du vin français et italien à la SAQ?
Ne célébrons pas trop
rapidement. Voilà, faudra voir. Oui. Tout ce qui est vinaigre, huile, évidemment, l'huile d'olive, entre autres, tout ça n'aura plus de tarifs. On va pouvoir importer des outils aussi sans frais. On sait que l'Allemagne est un gros producteur d'outils pour les entreprises. Ça va peut-être permettre à des entreprises de se moderniser. Évidemment, la question qui est en litige depuis un bon moment, c'est la question du fromage fin. On sait qu'on a ouvert davantage les portes du marché canadien au fromage fin européen. 17 700 tonnes de fromage fin graduellement vont pouvoir entrer au Canada en provenance d'Europe. C'est à peu près 4 % du marché du fromage fin au Canada. Puis le gouvernement canadien a déjà estimé que les pertes pour nos producteurs de fromage seraient d'autour de 1,4 % Donc, on les a compensés. On a annoncé l'an dernier 250 millions de dollars sur 5 ans pour les fermes laitières, 100 millions de dollars sur 4 ans pour les producteurs de fromage pour qu'ils puissent investir dans l'innovation, la modernisation des exploitations, l'amélioration de la productivité, de la compétitivité, etc. Le lobby trouve que ce n'est pas assez. On demandait beaucoup plus que ces 350 millions-là, mais c'est ce que le gouvernement fédéral a décidé de verser.
C'est beaucoup moins que ce que Harper avait... s'est engagé à verser.
Le gros chiffre qu'Harper avait mis, il n'est pas équivalent à ce qu'on a annoncé parce qu'il avait mis également l'entente sur le partenariat transpacifique. Il avait jumelé les deux. Il avait dit l'ouverture des fromages européens et la nouvelle entente sur le partenariat transpacifique, ça va totaliser, puis on était dans les milliards.
Oui,
c'était beaucoup d'argent.
Ça,
mais transpacifique avait tout un autre volet qui n'avait pas été négocié avec l'Europe. Donc, comme cet accord-là est tombé, le partenaire transpacifique, on est revenu à des chiffres un peu plus modestes. Donc, ça ressemble à ça. Moi pour la...
Il y a eu des échos à Québec de
ça. Bien sûr, parce que c'est, un projet phare du gouvernement du Québec depuis longtemps.
Oui, parce que... Et c'est Laurent Lessard, le ministre de l'Agriculture, qui a dit qu'il fallait qu'Ottawa bonifie absolument et de manière significative les compensations. Là, parce qu'il dit que les sommes qui ont été mises, qui ont été proposées, ils seraient dépensés très rapidement.
Ils sont déjà. Le gouvernement fédéral a ouvert une espèce de processus
sept
de soumission.
Jours, hein, ça a pris sept
ça a
jours.
Ça a pris sept jours, puis tout l'argent, effectivement, est engagé. Là. Ils ont
Exactement.
Été obligés de fermer le programme. Le fameux programme là, de 250 millions, ouais. Il est déjà fermé parce que les projets soumis par les cultivateurs ont atteint le 250 très rapidement.
Donc, M. Lessard, lui, il dit ce qui suit, d'ailleurs, on peut l'écouter.
Alors, les Québécois sont sensibles à cet élément-là d'un produit de proximité, produit du lait et du fromage de chez nous, donc le lait pour le fromage de chez nous. Alors, donc, les campagnes de promotion vont dans ce sens-là. On a une grande curiosité, ces produits européens, mais nécessairement, on produit beaucoup à l'européenne. Alors, donc, les fromages d'ici sont inspirés de beaucoup de pratiques européennes.
Donc, il nous dit qu'il n'est pas si inquiet que ça pour les producteurs fromagers d'ici parce que ce sont des produits de proximité
qu'on
produit à l'européenne et que ça voyage moins chez nous.
Oui, puis les fromages québécois ces dernières années se sont bien installés. On en a vraiment beaucoup, puis ils sont excellents.
C'est un produit de niche qui est assez luxueux. Ils n'ont pas fait l'erreur d'essayer de concurrencer les fromages européens sur les prix. Ils ont dit on va se différencier sur le goût et la qualité.
Ouais.
Puis leur campagne de pub va en ce sens-là.
Ouais.
Moi, je ne suis pas certain qu'effectivement, on va souffrir énormément. Et les gens sont déjà prêts à payer un petit peu plus pour avoir notre fromage qui est produit chez nous. Alors qu'on sait que les Européens vont arriver avec le brie puis le camembert que tout le monde connaît. Si on est capable encore de se différencier, je pense qu'on est capable de tirer notre épingle.
Petite parenthèse, M. Lessard, dans sa carrière, a souvent eu affaire au fromage. Hein? c'est pas la première fois. C'est lui qui avait fait saisir des tonnes de fromage.
La listériose, c'est ça?
Oui,
c'est
affecté par la listériose, effectivement.
Ouais. Ça a été un drame, hein, ça, la listériose, je vais vous dire. Il y a des producteurs
fromagers. 28 personnes rendues malades.
Non, mais ça a été un drame pour les
hospitalisés.
Oui, ouais. Mais ça a été un drame pour ces personnes qui l'ont consommé. Ça a été un drame pour les producteurs aussi, hein, parce qu'il y en a qui ont été obligés de jeter des quantités phénoménales de fromage qui n'étaient pas atteints et qui s'en sont jamais remis. D'ailleurs, il y en a un, il y a un fromager à Portneuf qui s'est suicidé là, il y a quelques mois de ça. Et selon un de ses bons amis, une des raisons, c'est qu'il ne s'était jamais remis, justement, de cette crise de la listériose. Mais bon, enfin, on referme cette parenthèse. J'aurais voulu que tu me parles un petit peu de Laurent Lessard, qui apparemment serait fatigué d'avoir deux ministères, mais je veux retourner...
J'ai posé la question,
retourner dans le Dominion avant ça, parce que cette histoire de Andrew Scheer, là, puis la Barbie, moi, je trouve ça assez choquant. Oui. Les déclarations du conservateur, surtout qu'il refuse de s'excuser. Vas-y donc, Alex.
Écoute, je n'en ai pas parlé hier parce que je m'étais dit, au moment où on va se parler, ça va être réglé. Andrew Scheer, le chef du Parti conservateur, va condamner les propos de son député, Jerry Ritz, qui avait traité mardi soir sur Twitter la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, de Barbie du climat.
Pourquoi? Parce qu'elle est blonde?
Bien, c'est l'image, j'imagine, que voulu utiliser, parce qu'elle est blonde, parce qu'elle paraît bien. C'est une expression que le média de droite, The Rebel, avait commencé à utiliser il y a déjà plusieurs mois. The Rebel est contre la position de Justin Trudeau sur les changements climatiques, puis il avait commencé à parler de Barbie du climat, puis là, le député Ritz a réutilisé ça sur Twitter. Puis je me suis dit, ça va prendre 24 heures. Son chef, Andrew Scheer, va condamner les propos, dérapage, puis ça va être réglé. Ce qui a donné de l'ampleur à la crise, c'est qu'hier, à plusieurs reprises, le gouvernement de Justin Trudeau, c'est Jim Carr, le ministre des Ressources naturelles, qui est monté au front à la Chambre des communes, a demandé à Andrew Scheer de s'excuser en disant, est-ce que vous condamnez les propos de votre ministre, de votre député, qui sont clairement sexistes? Là, on s'attaque vraiment à la ministre parce qu'elle est une femme et parce qu'elle a une apparence comme celle-là. Et à plusieurs reprises, Andrew Scheer a refusé de le faire. Je peux vous laisser entendre un extrait, donc, d'un échange entre Jim Carr, le ministre du gouvernement de Justin Trudeau, et Andrew Scheer hier à la Chambre des communes, qui refuse de s'excuser.
Mm-hmm. The leader of his entire caucus understands how inappropriate those comments were and asked the member to apologize to all members of this House and all Canadians today.
Honorable Leader of the Opposition, order.
Mr. Speaker, while answering media questions yesterday, the Prime Minister described his, quote, family fortune, which is held in at least three separate numbered companies.
Donc, on refuse.
Donc, Andrew Scheer qui part sur un autre sujet, mais ça a rendu ses propres députés plutôt mal à l'aise, hein? Parce qu'il y en a...
Ses propres députés féminines?
Ben oui, féministes. Et même les hommes du caucus conservateur disaient... oui, Jerry Ritz s'est excusé un petit peu du bout des lèvres sur Twitter. Là, finalement, il a dit « Je m'excuse d'avoir utilisé le thème Barbie, c'était peut-être pas approprié, mais il a pas parlé du sexiste, c'était pas très senti. » Fait que je pense que même les députés conservateurs auraient aimé que leur chef dise « Ben là, on a franchi une ligne. » Je peux vous laisser entendre la députée de la région de Québec, Sylvie Boucher.
Mm-hmm. Et ensuite, députée conservatrice.
Conservatrice. Ouais. Et ensuite, Maxime Bernier.
Ça n'a pas sa place dans un monde où les hommes et les femmes ont une place égale dans notre société.
Ça vous dit sur quoi on en est en 2017? Parti conservateur, comment on aborde la question du féminisme. Est-ce que c'est acceptable, ces propos-là?
C'est pas des propos que j'aurais utilisés, c'est bien simple. Merci.
Mais vous les condamnez pas, alors?
Bien, moi, je dis, je sais pas, je suis pas le whip du parti. Pour moi, c'est pas... ça fait pas partie de mon vocabulaire. Je fais de la politique autrement.
OK.
Maxime Bernier est coincé entre le fait que son chef n'a pas voulu condamner les propos, mais visiblement, il n'était pas d'accord avec ce que Jerry Ritz a utilisé. Il faut le dire, Jerry Ritz est un ancien ministre de l'Agriculture conservateur. Il va quitter la vie politique dans les prochaines semaines. Il a déjà annoncé son départ. C'est un départ un petit peu déshonorant. T'sais, pour quelqu'un qui fait de la politique depuis plusieurs années, c'est pas une
très
belle fin.
Est-ce qu'on va l'appeler le Big Jim du négationnisme climatique?
Je pense même pas que c'est... Tu peux avoir une position sur les changements climatiques et trouver que le gouvernement Trudeau va pas dans le bon sens sans personnaliser le débat puis faire ce qu'il a fait.
Sans traiter quelqu'un.
Et ça aurait été facile pour Andrew Scheer de séparer les deux.
Mais il est encore prêt avec la patate chaude. Là. J'étais chez Libéraux, je le lâcherais pas. Là. Je sais pas aujourd'hui à la période des questions, mais il devrait revenir à la charge. Je vais te dire, C'est fatigant pour un chef de parti quand tu te lèves en chambre et tu as quelqu'un comme le fait là, Carr, qui dit qu'est-ce qu'il attend pour condamner, qu'est-ce qu'il attend pour condamner, qu'est-ce qu'il attend pour condamner.
C'est que ça te fait dérailler ton message
et
aussi.
Pas à peu près.
Pendant ce temps-là, tu ne parles pas de la réforme fiscale de Bill Morneau, ce qu'il veut faire. Donc, tu règles ça, tu t'excuses, tu dis on a dépassé les bornes, on passe à d'autres choses.
Voilà. Tant qu'il ne le fera pas, il va avoir un problème.
Ça m'étonne.
Puis je ne serais pas étonné que Justin Trudeau, s'il ne l'a pas fait d'ici la semaine prochaine, le ramène quand il va être de retour en chambre. Rapidement, Laurent Lessard, fatigué d'avoir deux ministères?
Ben oui, depuis la fin janvier, le ministère de l'Agriculture, lui qui avait déjà
celui des transports.
Oui. C'est ça, exactement. Alors, je lui ai posé la question parce qu'on lit ça à gauche et à droite, puis avec les rumeurs de remaniement qui demeurent rumeurs et qui, le remaniement qui ne se concrétise jamais. On entend ça de plus en plus, qu'il faudrait le délester. Et voilà sa réponse.
Plutôt fatigué d'avoir la question, parce qu'en général, je me donne pas mal dans les ministères et dans les clientèles. Donc, c'est deux ministères à beaucoup de clientèles, ce qui fait que les rencontres sont fréquentes, sont nombreuses. Et puis, on me pose toujours quand même cette question-là, peu importe dans quelle clientèle je me trouve. Mais actuellement, je pense que je me donne à fond, autant dans le transport que dans le ministère de l'Agriculture. Évidemment, il y a des journées parfois qui sont un peu plus longues que d'autres, mais... Donc, c'est le mandat que j'ai reçu, puis c'est le mandat que j'exécute.
Et c'est le premier ministre qui va décider un jour peut-être de me délester d'un de ces deux ministères.
Ça mettra pas fin aux rumeurs. Hein? Il n'y a pas l'air d'un gars qui tient à garder ses deux ministères.
C'est vrai, hein?
Non.
J'ai essayé, tu sais, avec la question. Est-ce que vous êtes prêt à continuer de même longtemps? il a dit qu'il y a des journées vraiment plus longues que d'autres.
Ah, puis
j'ai l'impression qu'il est fatigué pour
l'expression
vrai.
Ministère à clientèle, c'est tellement une expression type de quelqu'un qui a été ministre longtemps.
Parce ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde à rencontrer.
Ça veut dire que tu as beaucoup de petits chatons à nourrir, c'est ça. Tu as beaucoup de groupes qui veulent ton attention, puis tu as beaucoup de lobbies qui veulent ton attention, et ça fait beaucoup de réunions, ça fait des journées très longues et ça fait des fins de semaine aussi très chargées. Alors, effectivement...
Il nous a dit qu'il y aurait un nouveau code de la sécurité routière qui serait déposé cet automne.
Avec des nouvelles amendes peut-être dedans. On verra bien, mais il faut s'arrêter. Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal. Et on n'a pas entendu ta porte aujourd'hui.
Ah, pourtant, Mathieu a ouvert la porte.
Ah, ben en tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu. Peut-être que
Mathieu,
c'est...
Mathieu, va donc ouvrir la porte juste pour entendre le bon crink-crink. Un instant. Un, deux. Écoutez bien ça.
Ah oui.
Ah, c'est un... Hein?
Sors ta graisse à Bessix.
Attendez-vous à plus de grinçage.
Et Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité.
Salut, à demain.
Merci, à demain.